Le magazine des Nations Unies. Bonjour à tous, bienvenue à ce magazine des Nations Unies. Voici les principaux titres. Les dirigeants africains appelés au respect de la Constitution et à s'en tenir au mandat qui leur a été confié. Appel lancé par Russ Feingold, envoyé spécial des États-Unis dans les Grands Lacs lors de son séjour à Kinshasa. C'était la semaine dernière pour Martin Kobler, chef de la MONUSCO. Il faut consolider les acquis du processus de paix de 2013 et jouer son rôle dans l'organisation des futures élections en RDC dans le respect de la Constitution. Ce sera l'actualité de la semaine. Les scientifiques congolais appelés à donner de la voix dans les médias, un objectif du CNUD impliqué dans une étude sur la dynamique des inégalités sociales et économiques en RDC. Dans cette édition, un expert de cette agence onusienne donne plus de détails. Ce sera le décryptage. Faire la part belle aux investisseurs étrangers au détriment des communautés locales, voilà contre quoi le Fonds mondial pour la conservation de la nature s'insurge. Son directeur national en RDC jette un œil critique au projet de loi sur les hydrocarbures en examen actuellement au Parlement. Il est l'invité de notre magazine.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
La question de l'avenir des élections en RDC a été longuement évoquée la semaine qui s'achève. D'abord lors de la conférence de presse animée par l'envoyé spécial des États-Unis dans les Grands Lacs et ensuite pendant la conférence des Nations Unies le mercredi dernier. Le représentant spécial Martin Kobler aussi bien que le sénateur Russ Feingold ont appelé au strict respect de la constitution congolaise dans l'organisation de prochaines élections voulues transparentes d'ici 2016. Ils ont aussi appelé à la consolidation des acquis de 2013. Jean-Pierre Elali Coco en parle avec plus de détails dans ce reportage.
L'envoyé spécial des États-Unis dans les Grands Lacs a précisé lors de sa conférence de presse des mardis 28 janvier à Kinshasa que les États-Unis d'Amérique s'opposent à toute tentative de recrutement et de réorganisation du M23. Il plaide pour le strict respect de la constitution congolaise dans l'organisation prochaine des élections transparentes et équilibrées. Il a par ailleurs abordé la question sur le processus de stabilisation de la RDC, la loi d'amnistie et la gouvernance interne. Pour les sénateurs américains, les élections de 2011 ont été assez vicieuses et elles n'ont pas répondu aux normes de la transparence. Aussi a-t-il plaidé pour l'organisation des élections transparentes et démocratiques d'ici 2016. Et s'agissant de l'élection présidentielle, il a exhorté les présidents africains au respect du mandat qui leur a été confié.
L'élection, bien sûr, de 2011 était assez sérieusement viciée et ne répondait pas aux normes d'élection transparente et équitable. J'ai toujours encouragé vivement les présidents africains afin qu'ils respectent les mandats qui leur ont été assignés. La loi fondamentale, bien sûr, se portera mieux si elle n'est pas modifiée pour qu'un troisième mandat puisse être accordé.
Et toujours au cours de cette semaine, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui intervenait le mercredi 29 janvier à la conférence de presse des Nations Unies, est revenu sur les priorités de la MONUSCO pour cette année 2014. Pour Martin Kobler, la mission onusienne doit consolider les acquis achevés en 2013. Il s'agit pour lui de rapatrier les ex-combattants du M23 installés en Ouganda, de continuer la lutte contre les rebelles rwandais des FDLR, sans négliger les rebelles des ADF. Il a également relevé le fait que la MONUSCO aura un rôle à jouer dans l'organisation de futures élections. Elle compte apporter une assistance technique et logistique à la CENI. Et le chef de la MONUSCO est assez clair. Il faut s'en tenir au respect strict de la Constitution.
Nous avons notre position qui est claire. Vous avez une Constitution. La Constitution doit être respectée. On a un calendrier électoral. On commence maintenant en 2014 ou au début de 2015 avec les élections locales ici. Et je crois que c'est très important de poursuivre ce calendrier électoral. Pour nous, c'est très important d'avoir une relation étroite avec la CENI. Et je suis très confiant qu'en coopération avec, on va achever les buts de la MONUSCO. Nous allons assister techniquement, logistiquement, la CENI. C'est très important d'organiser le plan de travail, d'avoir le PNUT, parce que c'est une entreprise logistique. Alors, d'organiser les élections nationales, on a maintenant un an de préparation. Saisissons l'occasion maintenant de continuer, parce que c'est un travail très très dur.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Je l'ai dit dans le sommaire, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD appuie et accompagne une étude dont la thématique est « La dynamique des inégalités sociales et économiques, édification de la nation, État en RDC ». Ernest Bamou, conseiller économique principal auprès du PNUD, bureau RDC, décortique avec nous les concepts de cette thématique. Suivez-le dans cet entretien avec Honoré Missinga-Kabar.
Monsieur Ernest Bamou, bonjour.
Bonjour Radio Okapi.
Le PNUD encadre un projet d'une étude sur la dynamique des inégalités sociales et économiques cumulatives et édification de l'État-nation en RDC. L'étude en question a été lancée le 27 janvier 2014. Intéressons-nous d'abord à la première partie de cette étude. Qu'entendez-vous par dynamique des inégalités sociales et économiques?
La dynamique des inégalités sociales et économiques est tout simplement l'expression d'une thématique dont on peut dire naturelle. Vous connaissez le phénomène des doigts de la main où ils n'ont pas les mêmes tailles. En fait, quel que soit le cas, dans toutes les nations, les inégalités sont un phénomène qui existe. Il y en a donc qui sont facilement remédiables et d'autres qui ne le sont pas, qu'on peut appeler les inégalités naturelles. Et il y a d'autres inégalités auxquelles des mesures de politiques économiques, des approches peuvent atténuer. Et c'est la raison pour laquelle le PNUD pense que, entre autres missions de développement et de redistribution de revenus, ils peuvent aider la République démocratique du Congo à atténuer les effets négatifs des inégalités qui ne sont pas naturelles et dont on peut remédier et qui sont néfastes pour le développement.
Ce qui justifie l'intérêt porté par le PNUD à cette thématique?
Oui, ce qui effectivement justifie l'intérêt du PNUD, pas seulement du PNUD au niveau national, mais du PNUD au niveau même corporate, c'est-à-dire qu'au niveau global, au niveau du siège, la raison derrière pour laquelle cette étude qui est initiée d'abord par les Congolais, pour les Congolais, et les Congolaises a été acceptée pour appui par le PNUD du siège, avec l'accompagnement du PNUD national.
Alors, quels sont les objectifs que le PNUD et les initiateurs de cette étude se sont fixés?
On peut se dire qu'on s'est fixé essentiellement deux objectifs. Le premier objectif étant celui de l'animation scientifique de la communauté congolaise. En fait, il s'agit ici d'occuper quand même une part des médias qui est, comme vous le savez, très très occupée par les communautés religieuses. Je ne veux pas en citer pour créer des inégalités, mais au moins pour que la communauté scientifique puisse se faire entendre sur la scène nationale. Ça, c'est le premier idée. Mettre ensemble les académiciens, les politiciens, bref, toutes les composantes de la société pour qu'ils discutent des questions de l'esprit, des idées scientifiques. Le deuxième étant effectivement que le PNUD pense quand même qu'à l'heure actuelle, où le pays est en train d'amorcer sa transition sociale, qu'il est important qu'un débat se tienne sur cette question ô combien importante des inégalités et de leur réduction pour favoriser la transition vers cette transition sociale que le pays a amorcée.
Qu'est-ce que vous entendez par transition sociale?
La transition sociale, dans le sens premier du terme, est, disons, le canal par lequel les fruits de la croissance se retrouvent, pour parler un peu terre à terre, dans les poches de la population. Comme vous savez, depuis une certaine période, on remarque effectivement une embellie au niveau des indicateurs macroéconomiques du pays. Le Premier ministre l'a déclaré dans sa dernière rencontre avec la presse nationale et internationale, que le taux de croissance tourne autour de 8,2%, que le taux d'inflation est ramené à presque 1,quelque chose pour cent contre 2% qui était projeté. Ça veut dire qu'en clair, le pays sur le plan macroéconomique se porte très bien. On est même en train d'envisager pour 2014 une croissance à deux chiffres. Mais vous savez très bien que le taux de pauvreté reste rampant, autour de 70%, que la ménagère continuer à souffrir, ne mange pas à sa faim, n'envoie pas les enfants à l'école comme il s'agit. Donc il est ici question pour le gouvernement de voir comment passer donc de cette croissance qui est déjà visible vers l'atténuation de ces pauvretés pour que la population ressente dans son panier les effets donc de cette croissance qui essentiellement sont tirés par l'embellie au niveau des matières premières.
Et alors, qui vont mener cette étude?
L'étude, en fait, est menée par un consortium, un groupe de chercheurs congolais, essentiellement des universités. Mais toutefois, toutes les parties prenantes sont conviées à se sentir partie prenante de cette étude. Si le consortium d'une douzaine de personnes impliquées, tant au niveau senior comme le coordonnateur des thèmes, qu'au niveau junior, c'est-à-dire que les jeunes chercheurs, les jeunes enseignants des universités qui vont y être associés, on aimerait quand même que les praticiens des domaines, essentiellement les directeurs des études et programmes, des ministères essentiellement concernés comme la justice, la santé, l'éducation, le genre, la famille et tout ça, soient impliqués.
Le secteur privé des affaires est aussi concerné?
Certainement, le secteur des affaires est concerné d'une manière ou d'une autre à travers ces démembrements comme par exemple la FEC ou alors celui des femmes. Mais comme on dit, c'est essentiellement une étude de type sociologique. Peut-être que plus tard, sur le plan direct, on pourrait voir comment le milieu des affaires va être intéressé. Mais toutefois, il y a des inégalités aussi au niveau des affaires. Cela va être abordé. Les inégalités dans l'accès de certains secteurs d'activité, comme le secteur minier, des inégalités qui se font ressentir, même dans l'accès au petit commerce. Toutes ces questions-là sont des questions à débattre et à trouver des solutions qui permettent un épanouissement beaucoup plus facilité de la communauté nationale.
Ernest Bamou, quelles sont les plus grandes inégalités sociales et économiques que le PNUD a répertoriées en République démocratique du Congo?
En somme, les inégalités, comme je vous ai dit, sont naturelles, elles existent de tous les côtés. Peut-être que le PNUD, du fait de sa mission d'appui au développement, s'intéresse beaucoup plus à quelques inégalités qui sont déjà recensées dans les indicateurs du développement humain que nous avons appelés les OMD. Vous verrez par exemple les inégalités du genre, c'est-à-dire que les différences qu'on a entre les femmes et les hommes, que ce soit en termes d'emploi, en termes d'implication dans le service. On a les inégalités d'accès à l'éducation, on a les inégalités salariales entre le secteur privé et le secteur public. On a plein d'inégalités qui existent et qui sont dommageables pour un développement inclusif. Le PNUD croit pouvoir apporter une contribution en termes de réflexion, en termes d'appui programmatique qui permettent au pays d'atténuer ces inégalités-là.
Venons-en maintenant à la deuxième partie de l'étude, édification de l'État-nation. Donc, on dirait qu'il y a une corrélation entre la justice sociale et la cohésion nationale.
Je crois que l'étude va nous le présenter, mais ce qui est clair quand même, c'est que toute action crée une réaction. Certainement, toute injustice est toujours source de conflit. Et tout conflit n'est jamais approprié pour une cohésion sociale, une cohésion. Et là où il n'y a pas de cohésion sociale, il est difficile d'établir une nation ou alors un État. Effectivement, il y a une corrélation ambivoque, c'est-à-dire que l'un provoque l'autre. Bref, ces deux termes-là se nourrissent de manière à ce qu'effectivement, si on veut une nation ou un État fort, il faut d'abord que les populations soient d'abord cohérentes, qu'elles se sentent entièrement concernées par l'État ou la nation.
Ernest Bamou, merci.
Merci beaucoup Radio Okapi et du courage à vous.
Bientôt, une loi portant protection des droits des déplacés internes en RDC. La nouvelle a été annoncée mardi dernier à Bunia, où près d'une quarantaine de personnes ont échangé sur ce sujet. Le projet de cette loi est une initiative du HCR en collaboration avec le gouvernement congolais. Pour le moment, le Haut Commissariat pour les réfugiés en est encore à l'étape des consultations à travers le pays. C'est à l'issue de ces consultations que le texte sera remis au gouvernement et celui-ci l'endossera et le présentera à l'Assemblée nationale pour son adoption ainsi que sa promulgation par le chef de l'État. Publication d'un rapport de l'ONU chargeant le Rwanda. Ce rapport d'experts onusiens sur la République démocratique du Congo a été publié mardi 28 janvier malgré l'opposition du Rwanda. Il met en lumière l'influence de Kigali et son soutien à certains groupes rebelles dans l'est de la RDC. Entre autres preuves à charge du Rwanda, les experts de l'ONU ont publié dans leur rapport 4 photos de chars et véhicules de l'armée rwandaise pris, selon eux, sur l'axe Kabuanga-Kabuye et lesquels pourraient avoir apporté un appui opérationnel au M23. Enfin, restant dans la même région, au sud Kivu, le HCR a rapatrié jeudi dernier 39 réfugiés rwandais. Information livrée par la Commission nationale pour les réfugiés. Ces réfugiés rwandais rapatriés provenaient pour les uns des territoires de Mwenga et de Kalehe, au sud Kivu, et pour les autres de Masisi, au nord Kivu.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le Fonds mondial pour la conservation de la nature, WWF, réagit au projet de loi portant régime général des hydrocarbures actuellement en examen au Parlement. Cette ONG internationale estime que le texte fait la part belle aux investisseurs étrangers au détriment des communautés locales. Le professeur Raymond Lumbuenamo, directeur national du WWF en RDC, propose ce qu'il appelle les engagements concrets à inscrire dans ce projet de loi. Il aborde également la question liée à la préservation du parc national de Virunga, patrimoine national, contre les tentatives de prospection pétrolière des firmes multinationales. Il répond aux questions de Jean-Pierre Elali Coco.
Professeur Raymond Lumbuenamo, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Un projet de loi portant régime général des hydrocarbures est en examen au Parlement depuis octobre 2013. Vous estimez dans un communiqué qui nous est parvenu que ce projet fait la part belle, même très belle, aux investisseurs étrangers au détriment des intérêts nationaux. Professeur, comment vous l'expliquez ?
Je l'explique par le fait que beaucoup de clauses que j'aurais voulu voir dans la loi ne s'y trouvent pas. Il y a par exemple le clause qui concerne le partage de bénéfices avec les communautés, le partage de revenus avec les communautés. On ne voit pas l'engagement des communautés. Comment les sociétés pétrolières vont agir pour que les communautés se retrouvent dans ce qu'ils gagnent en exploitant les pétroles.
Donc vous aurez souhaité que ces engagements soient repris dans le projet de loi.
Effectivement, ils auraient dû être explicitement écrits de telle manière que personne ne s'y trompe et que personne n'aille spéculer de ces engagements. Parce que sinon, ce que l'on ouvre la voie à une spéculation qui finalement aboutit à des résultats qui sont mitigés, parfois même sans conséquence.
Pourtant, l'article 36 de ces projets de loi conditionne l'octroi du permis d'exploitation, entre autres, par un plan des contributions de développement des entités locales. Est-ce que cela n'est pas suffisant? Cela n'est pas explicite?
Si je pouvais me référer à cet article, la seule chose qu'elle dit à propos de communauté,
oui,
c'est que il faut qu'il y ait un plan de contribution au développement des entités et des communautés locales.
Justement.
Eh bien, c'est tout ce qu'il dit. Mais qu'est-ce que cela veut dire, contribution au développement des entités locales? Je ne vois vraiment pas ce que ça veut dire. En ce qui me concerne, j'aurais voulu voir, par exemple, qu'on cesse de pratiquer ce qu'on avait pratiqué dans le temps après la colonisation. Par exemple, supposons qu'il y a une compagnie qui arrive. Moi, j'aurais voulu que cette compagnie vienne et dise, j'installe une unité de traitement des arachides, par exemple, mais que les communautés plantent des arachides et me vendent des arachides. Dans ce moment-là, les communautés sont partie prenante. Dans le cas qui nous concerne, les terres dans lesquelles le pétrole sera exploité, ce sont des terres qui appartiennent à ces communautés de façon coutumière et l'État les récolte.
Donc aux Congolais en général.
Aux Congolais. Alors, ces communautés, à mon avis, devaient avoir des participations, même de façon modique, mais quand même des participations communautaires au capital de la société.
Et des participations en pourcentage,
Oui, des participations au capital.
Parce qu'on ne peut pas donner quand même des chiffres au préalable comme ça.
Non, je ne dirais pas. Oui, justement, en termes de pourcentage, on dirait, on partagerait, par exemple, dans les codes miniers, il y a 60% pour l'État central, 25% pour l'État provincial et 15% pour les entités décentralisées. Mais il n'y a rien pour les communautés. On aurait pu dire aussi 5% pour les communautés. Et ça, ça aurait été pour moi un engagement concret.
Et vous avez une crainte, vous dites qu'on risque de retomber sur les mêmes erreurs comme c'était avec les codes miniers.
Mais justement.
Et vous croyez que les codes miniers n'ont pas vraiment su profiter aux Congolais jusque-là?
Vous avez entendu parler de certaines spéculations qu'il y a eu ici. On sous-estime les carrés miniers, en tout cas les concessions minières. Et puis un an après, on révèle même concessions en faisant une marge bénéficiaire immense au détriment de l'État congolais. Est-ce que vous croyez que ça a été bien négocié?
C'est tout fort.
Nous sommes ici, nous avons entendu parler du Katanga, nous avons entendu parler de la Gécamine. La Gécamine qui était un fleuron dès l'État congolais, qui a aidé les communautés.
Et on a parlé même du poumon économique de la RDC.
À cette époque-là.
Oui.
Mais maintenant, toutes ces sociétés-là qui viennent, qui exportent des minéraux bruts, vous pensez vraiment que les communautés se retrouvent? Qu'est-ce que vous direz, par exemple, de Mwanda? Bientôt, les jugements vont s'épuiser, mais qu'est-ce qu'on leur a laissé à Mwanda? Des maladies, de la pollution, des eaux.
Professeur Raymond, qu'est-ce que vous entendez par bénéfice pour les communautés locales?
Mais justement, des revenus qui iraient dans un compte qui servirait pour les installations sociales, des écoles, des hôpitaux, des routes qui seront faites grâce à un fonds qui serait alimenté par les parcs, par exemple, les communautés auront dans le capital de la société. Ça, ce serait pour moi quelque chose de très concret.
Vous parlez des communautés locales, mais vous savez aussi que souvent le gouvernement provincial ou même le gouvernement central a toujours un droit de regard dans tout ce qui se fait au niveau de l'exploitation du pétrole, par exemple, dans notre pays. Et vous ne croyez pas que le gouvernement sera beaucoup plus gourmand dans les parts qui sont réservées, notamment aux bénéfices qui sont réservés aux communautés locales?
Mais non, mais justement, c'est pourquoi je pense que ça doit être inscrit dans les accords et... Ces fonds doivent être virés dans un compte qui n'a rien à voir avec celui du gouvernement.
Professeur, ces projets de loi font l'objet d'un débat au niveau du Parlement. Il n'est pas encore promulgué, ces projets de loi. Et vous savez que la société civile a fait des amendements là-dessus et qui ne sont pas malheureusement pris en compte. Que ferait votre organisation, le WWF, si la loi ne tenait pas compte de votre préoccupation?
J'ai pas grand chose à faire sauf que je relève ce que moi je constate. Je n'ai pas de forme de coercition que je puisse.
Mais une sorte de plaidoyer au niveau de la députation.
Nous le faisons déjà. Nous sommes en contact permanent avec la commission qui a la charge de ces lois-là. Nous les côtoyons jour et nuit.
Et vous avez apporté vos amendements?
Nous avons amené nos amendements auprès de ceux qui sont chargés de les discuter au Parlement. Et nous attendons que la loi soit promulguée pour qu'on sache ce qui se passe. Mais en tout cas, nous faisons ce que nous devons faire.
Voilà. Qui a bien dit, mais professeur, parlons un peu de votre organisation, les WWF.
Oui.
Au cours d'une mission en décembre dernier à Goma, votre organisation a mené une série d'activités, dont un atelier d'échange avec les ONG impliquées dans la préservation du parc national de Virunga. Alors, que peut-on retenir de cet échange, notamment au niveau des étudiants?
Nous sommes allés là-bas pour voir plusieurs entités. La première, c'était le Parlement provincial lui-même, avec lequel nous avons passé presque une journée entière. Et puis nous sommes allés à l'université où nous avons tenu une conférence débat avec les étudiants et les corps académiques. Et ensuite nous avons vu la Fédération des entreprises du Congo. Nous sommes allés aussi rendre visite aux organisations non gouvernementales locales, donc la société civile locale. Notre but c'était de disséminer les informations parce que généralement ce sont des informations qui manquent pour que les gens prennent les décisions qui conviennent.
Les informations sur quoi? Sur le parc de Virunga?
Sur le parc de Virunga, les enjeux sur le parc de Virunga. Parce qu'on parle du pétrole. Je continue à vous dire que le pétrole est une valeur qui peut donner de l'argent très rapidement, mais qui finit aussi très rapidement. Mais malheureusement, quand elle est finie, ce qui reste derrière, ce sont des ruines qu'on ne peut plus utiliser. Et la gamme de produits que le pétrole donne est très restreinte.
Mais professeur, on ne peut pas vivre sans l'exploitation pétrolière, par exemple, parce que le pétrole, c'est une denrée quand même importante.
Oui, mais le pétrole, il n'y en a pas qu'au Virunga. Moi, je parle du Virunga. Le Virunga est un site unique. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux en Afrique. Puis je peux bien même dire qu'il n'y en a pas deux au monde. Et il est capable de fournir beaucoup d'argent pendant des générations et des générations. Mais si vous y mettez un champ pétrolier, ce qui va arriver, il va fonctionner et produire de l'argent pour quelques gens d'ailleurs, pas pour la population tout entière, hein. Pas pour les pêcheurs, pas pour les agriculteurs, pas pour les restaurateurs, pas pour les hôteliers. Tout ce monde-là va perdre un revenu garanti pour des générations. Est-ce que nous sommes prêts à brader cet avoir-là que nous avons pour des profits, au profit de quelques individus? Moi, en tant que Congolais, ça me révolte.
Oui, c'est un message. Est-ce que vous croyez que ce message est bien passé?
J'ai exposé ce que je sais. J'ai dit ce que le tourisme peut apporter. J'ai dit ce que la pharmacopée pouvait apporter. J'ai dit ce que l'agriculture apporte déjà. J'ai dit aussi ce que la pêche apporte déjà. Et si nous perdons les lacs parce qu'il a été pollué, combien de familles seront endeuillées? Est-ce que nous sommes prêts à faire ce sacrifice pour que nous profitions du pétrole pendant 20 ans, 30 ans, alors que nous pouvons gagner, peut-être pas des milliards d'un coup, mais en tout cas des milliards sur une longue
période.
Tant que le Virunga sera préservé, il est capable de continuer à produire de l'argent pendant des générations. C'est ça mon message.
Et professeur, je vous remercie.
Merci beaucoup mon ami.
En visite de travail à Lubumbashi, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations dans l'Est de la RDC a visité lundi l'école de formation de la police de Kasapa. Pour le général Abdallah Wafi, il est important que la province du Katanga soit aussi prise en compte dans des projets sur la réforme de la police nationale congolaise. Il l'a dit à Neuilly Kabena, c'est notre nouvelle de province.
Nous avons mobilisé plus de 30 millions de dollars américains rien que dans les formations de la PNC. Je ne parle pas des projets de police de frontières à l'Est, hein. Je vous parle uniquement des programmes de formation avec des partenaires comme l'agence de coopération japonaise JICA, avec l'USAID à travers ANL, ou les Britanniques à travers leur agence de coopération DFID. Mais je constate quand même que la province de Katanga n'a pas bénéficié de cet important programme, de cet important appui. Nous avons mis l'accent beaucoup plus dans les Kivu, Nord Kivu surtout, sur Kivu et un peu l'Ituri. Je pense que ce n'est que justice d'essayer de voir comment nous allons essayer de réajuster pour que ce soit au niveau de programmes de formation, mais qui vont concerner les policiers des autres districts du Katanga. Nous pouvons rassembler ces éléments qui ont besoin de formation, les transporter sur Lubumbashi pour qu'ils soient formés, ensuite les ramener dans leur zone d'opération pour qu'ils puissent travailler dans ces zones.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Nous avons sélectionné pour vous la question de notre confrère Allo Walikani de la RTNC. Sa question porte sur les drones. Suivez.
Qu'est-ce qui s'est passé avec les drones? Il n'y a pas eu des explications vraiment claires. Est-ce que ça ne serait même pas à cause de l'origine même, le pays qui a produit ces drones-là, l'Italie? Parce qu'on ne parlait pas de l'Italie trop souvent dans la nouvelle technologie des drones. On a eu des crashs à Goma. Est-ce que ça ne serait même pas à cause de l'origine même de ces drones? Merci.
Suivez maintenant la réponse du général Carlos Dos Santos Cruz, commandant des forces de la MONUSCO, dont les propos sont traduits par le chef de division de la MONUSCO à Goma.
The drones. We had one technical problem, and now we are ready again to operate, and we are going to start to operate. The schedule, the program we have is very normal. We are going to deploy the five drones until the first week of April.
Nous avons eu un problème technique que vous connaissez, mais nous sommes de nouveau prêts à opérer. Nous allons déployer les 5 drones comme prévu. D'ici au 1er avril, les 5 drones seront opérationnels.
Le problème, c'est normal.
Magazine des Nations Unies. Portrait d'usine.
Bonjour. Je m'appelle Georges Dominique. Je suis marié et père de 2 enfants. Côté formation, j'ai fait des études, j'ai pu obtenir 2 diplômes en dessin industriel et architecture, en électrotechnique et vidéo. Aux Nations Unies, je travaille à la section de l'information publique, spécialement à l'unité vidéo. Depuis 2 ans, je suis en charge de l'unité vidéo. Mais dans le système, ici à la MONUSCO, je suis ici depuis 10 ans. J'ai travaillé d'abord dans les secteurs. J'étais en charge de Kisangani d'abord, à Bunia. Et maintenant, depuis 5 ans, je suis à Kinshasa. Message quotidien, c'est suivre toutes les activités au niveau de la MONUSCO, les activités audiovisuelles de la MONUSCO et s'occuper de la présentation de notre programme hebdomadaire, des images qu'on envoie au siège, des images à distribuer, des images à traiter. Tout qui a trait à la vidéo. Aussi, le rapport avec la chaîne de télévision locale, ce qui est très important pour notre visibilité. Avant la MONUSCO, j'ai travaillé pour plusieurs agences et j'ai travaillé pour des chaînes de télévision étrangères. J'ai travaillé pour Reuters et j'étais avant pour la télévision. J'ai travaillé pour Telemundo, Telenoticias. J'ai travaillé pour ABC aux États-Unis et aussi je travaillais pour des agences américaines comme l'USAID. Côté Nations Unies, j'ai été consultant des Nations Unies. Et en 3 fois déjà avant de venir ici, j'ai été consultant pour des projets audiovisuels pour les Nations Unies. Amérique latine, Caraïbes, mais toujours je dépendais de New York. Mon temps libre, je peux dire, se résume comme suit. Ma famille, le tennis, la cuisine et la musique. Et cuisine et musique, ça va de pair. Ça marche ensemble. La famille, c'est C'est important, c'est une structure à respecter, c'est une idée assez particulière de la famille. En ce qui concerne pour mes projets d'avenir, c'est déjà établi, depuis 3 ans déjà. Alors, pour le moment, ça va. Je peux dire en un mot, ça roule. J'adore le pays. La RDC, je l'adore. Parce que j'ai découvert, parce que j'ai eu l'opportunité. J'ai eu la chance, l'opportunité de voyager à travers ce pays. Ça, je peux le dire. J'ai eu cette chance de voyager à travers ce grand. Ah oui, je l'aime. C'est tellement diversifié. Il y a tellement de choses à voir. Et à comprendre aussi, ici. C'est richement intéressant. Merci.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Deux rendez-vous à inscrire dans vos carnets. 4 février prochain, le monde entier commémore la journée mondiale contre le cancer. Le 6 février, Outreach, ou l'unité de sensibilisation de l'information publique de la MONUSCO, poursuit sa campagne sur l'éducation à la paix, les conflits interreligieux, avec un atelier sur la formation des journalistes sur les questions religieuses. Fin de cette émission, toute l'équipe vous remercie de l'avoir suivi. Mila Kimbouini à la présentation, Sylvain Matundo à la régie, Nicole Ngaka à la supervision, Jean-Pierre Elali Coco à la coordination et Honoré Missenga au portage. Vous pouvez la réécouter à tout moment sur notre site www.radiocapi.net. Vos questions, envoyez-les-nous ou appelez au 082 30 76 630, 082 30 76 630. Vous pouvez aussi nous contacter sous forme de commentaires sur notre site internet en dessous de l'émission ou alors nous écrire à notre adresse mail magun@radiocapi.net. C'était un plaisir d'être des vôtres. À dimanche prochain et excellente journée dominicale à tous.